Bienvenue à Bruno Ray, qui est coprésident de la recyclerie Le Bruit du Placard à Saint-Laurent en Royan. Bonjour Bruno.
Bonjour.
On a pu écouter ensemble quelques idées reçues donc, sur ce thème de la seconde main. Elles ont été recueillies lors de micro-trottoirs qui ont été menés sur le territoire du Royan-Vercors. Et pour répondre à ces idées reçues donc, sur la seconde main avec Bruno, je vous propose de commencer d'abord par une définition. La seconde main, Bruno, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il?
La seconde main, ça va être pour tout le monde, tous les objets finalement d'un côté dont on ne se sert plus, on n'a plus envie, enfin, on a le droit de vouloir se débarrasser de choses. Et de l'autre côté, ben, c'est toutes ces personnes qui vont, dans tout plein de domaines, hein, ça concerne tout en fait, vont faire le choix de acheter des choses qui sont d'occasion.
En fait, c'est une manière d'alimenter ce qu'on appelle l'économie circulaire, d'un côté comme de l'autre.
C'est une sorte d'économie circulaire, et après, voilà, c'est y a des personnes qui vont être peut-être plus dans le besoin justement financier de devoir se séparer peut-être de certaines affaires parce que des fois la conjoncture est compliquée, et puis d'autres qui peut-être vont plus par choix personnel se dire que ils vont préférer essayer de trouver des choses de seconde main plutôt que de devoir acheter des choses qui soient neuves.
Oui, c'est donc un des grands avantages de la seconde main. D'ailleurs, on peut peut-être lister quelques avantages. C'est donc de faire des économies. Et il y a d'autres avantages.
Il y en a tout plein. C'est-à-dire que effectivement, celle qui saute aux yeux, c'est quand on va acheter quelque chose d'occasion, bah forcément, ça va être quelque chose qui va être parfois vraiment, vraiment moins cher. Et après, il y a aussi une dimension peut-être plus... peut-être plus philosophique et autre, de vouloir faire autrement, c'est-à-dire de, quand on regarde un objet, bon, l'économie mondialisée actuelle, une bonne partie des objets qu'on va acheter, finalement, sont produits ailleurs. Ils sont produits ailleurs dans des conditions qui sont plus que discutables, parce qu'on peut voir que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de respect des normes environnementales, parce que des fois, il n'y en a tout simplement pas, il n'y a pas de respect des travailleurs et autres. Et puis, ces objets, ils sont produits aussi à partir de matières premières. On pense au pétrole, on pense à d'autres choses comme ça, pour faire du plastique. Et cette matière première aussi provient de pays où, souvent, si on fait simple, c'est quand même des dictatures, c'est quand même des systèmes où les droits humains élémentaires ne sont pas respectés. Et donc, c'est vrai qu'il y a des... Quand on est conscientisé de ça, c'est vrai que, en fait, consommer, c'est aussi, ça peut être aussi, peut-être des fois, un choix, je dirais, politique. C'est-à-dire que si on est conscient de ça, c'est-à-dire de choses qui ne nous plaisent pas, ben, on va forcément adapter notre mode de consommation en conséquence. Voilà.
Donc des avantages, si je résume, du côté des économies, donc du côté financier, voilà. Mais aussi de l'écologie et aussi avec un aspect beaucoup plus politique dont tu nous parlais. Et alors, plus concrètement, comment est-ce qu'on peut participer à cette économie circulaire de seconde main? Comment à la fois peut-être vendre des choses et comment acheter? Sur quelle plateforme,
alors, il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a forcément le développement d'Internet, donc il y a des plateformes qui proposent même des millions d'annonces pratiquement chaque jour. Enfin, il y a tout un domaine là-dessus. Il y a tout ce qui est aussi les vides-greniers, c'est-à-dire que chaque village, chaque ville organise ses vides-greniers où finalement, bon voilà, pareil, c'est un autre endroit où on peut trouver beaucoup de choses forcément d'occasion. Et puis après, il y a tout ce qui est, moi j'en suis membre, tout ce qui est recyclerie justement, qui permettent de réceptionner tous ces objets dont les gens ne veulent plus. Les gens n'ont pas forcément envie de créer des annonces, n'ont pas forcément envie de faire un vide-grenier, mais ils ont des choses et puis ils vont en faire don à une association. Et cette association va essayer après de revendre ces objets. Alors, toutes les associations n'ont pas le même type de fonctionnement, les recettes ne vont pas forcément ailleurs. Nous, c'est par exemple, l'argent sert à employer 2 personnes à temps partiel. Donc, il faut trouver suffisamment, on va dire, d'argent par mois pour pouvoir tout simplement payer les salaires. Donc ça, c'est un choix de la recyclerie, Le Bruit du Placard à Saint-Laurent.
Et alors, on évoquait les plateformes, on peut donner quelques exemples à la fois donc, de plateformes nationales qui sont par exemple Le Bon Coin ou encore Vinted, mais aussi par exemple des choses plus locales, je pense au groupe Facebook Les Chineurs du Royan, tout simplement.
Voilà, il y a tout plein d'initiatives qui sont mises en place. Alors voilà, après c'est... pourquoi on fait ça? Il y a plein de raisons. C'est vrai qu'il y a l'aspect, on a des choses chez soi qui servent à rien, peut-être essayer de gagner un peu des sous avec en essayant de les revendre. Après, on peut des fois hériter de choses, on peut des fois avoir des choses dont, voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi un moyen de permettre à des objets, en fait, la finalité, c'est que ces objets-là ne finissent pas dans les poubelles ou dans la benne encombrant de la déchetterie, mais qu'ils puissent permettre peut-être d'avoir une seconde vie, voire peut-être encore une autre vie après, et ainsi de suite.
Alors, on évoque les déchetteries, j'en profite, les déchetteries qui maintenant ont aussi des espaces éventuellement pour ne pas jeter justement
alors
les
voilà,
objets.
Alors voilà, il y a un petit espace, bon, à celle de Saint-Laurent, où justement on peut, voilà, on a un objet, bon, des fois on hésite un peu, puis des fois c'est tout bête aussi, il y a des gens qui n'imaginent pas qu'un objet puisse éventuellement intéresser, donc là c'est vrai qu'il y a un petit espace où on peut déposer un livre, on peut déposer un meuble et autres, et puis comme c'est très pratique, c'est à côté de la déchetterie, donc c'est très simple, ça part, c'est vrai que les agents qui sont sur place, un objet qui va rester un peu plus longtemps et qui en plus est gratuit, s'il part pas, bon, ben, il va atterrir dans la benne adéquate. Là, il y a un petit espace. C'est vrai que l'idéal, ça serait un espace un peu plus développé où effectivement on puisse filtrer ce qui arrive à la déchetterie, laisser un temps à certains objets et effectivement, s'il y en a qui ont vraiment plus aucun intérêt, qui n'intéressent plus personne, à ce moment-là, ils termineront dans une des bennes de tri de la déchetterie.
Et on évoquait les recycleries, il en existe deux en fait sur le territoire.
Voilà, donc il y a celle de la chapelle en Vercors, et puis il y a celle qui est située à Saint-Laurent, justement à proximité de la déchetterie de Saint-Laurent.
Si on revient, Bruno, sur les idées reçues qu'on a pu recueillir donc à l'occasion des micro-trottoirs donc sur la seconde main, on peut retrouver souvent un petit peu les mêmes idées, le côté mauvais état peut-être de l'occasion, le risque d'acheter des objets en mauvais état, et également le côté un petit peu peut-être perçu comme sale de récupérer les objets de quelqu'un d'autre finalement.
Alors oui, il y a plein de... Non mais c'est tout à fait entendable. Après, nous, on va des fois récupérer les objets même en mauvais état, mais parce qu'ils vont être peut-être réparés ou avoir une autre utilité que leur fonction première. Donc c'est pour ça des fois on se dispute un peu gentiment de bénévoles, hein, parce qu'on manque de place, mais c'est vrai que des fois on reçoit des choses, genre, est-ce qu'on le garde ou pas ? Et en fait, un meuble abîmé peut servir de mal à jouer. Enfin, il y a des choses effectivement qui peuvent être abîmées, mais qui peuvent quand même, on peut récupérer des pièces dessus, ou on peut leur trouver une autre finalité que leur fonction première. Après, effectivement, des fois on peut avoir des objets qui peuvent être un peu sales, qui peuvent être un peu usés, qui peuvent être un peu pleins de poussière. Voilà, mais l'idée c'est d'essayer de sauver un maximum d'objets, et puis de leur permettre d'avoir une autre vie derrière. L'idée, c'est de baisser le tonnage des bennes où, malheureusement, les bennes encombrant, bah, c'est de l'enfouissement.
Oui, ça demande peut-être un peu plus d'effort d'acheter finalement d'occasion, mais ça en vaut la peine à tous les niveaux, comme on le disait.
Voilà.
Donc ces idées reçues, elles sont quand même assez nombreuses, mais quand même, j'ai l'impression, en tout cas de mon côté, que c'est quelque chose qui change et qu'il va y avoir une sorte de changement culturel. Aujourd'hui, de plus en plus de gens vont acheter d'occasion.
Alors en fait, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on devient un peu fou, c'est-à-dire que effectivement, on a ce sentiment quand même qu'il faut faire attention à notre consommation, qu'il faut essayer de changer un peu des comportements, qu'il faut essayer de faire de l'occasion. Et en même temps, on a constamment cette ligne du gouvernemental au politique de « il faut produire, il faut de la croissance, il faut tout ça », sans forcément se poser la question de l'impact que ça peut avoir. Et nous, on est un peu coincé entre ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut produire plus tout le temps et autres, qu'on parle que de croissance, mais sans derrière mettre peut-être un peu plus de réflexion. Et à côté de ça, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas produire de manière indéfinie dans un monde fini. Enfin, ça paraît évident de dire ça. Mais donc, nous, on est coincé un peu entre tout ça, parce qu'on comprend effectivement que qui dit croissance, dit production, dit entreprise, dit industrie, dit emploi et autres. Et en même temps, il y a la réalité des choses. C'est-à-dire que nous, on est une petite recyclerie. On est quand même parfois l'impression d'être un peu submergé. Et des fois, l'impression d'être un peu... On récupère peut-être qu'une petite goutte d'eau de tout ce qui est balancé. Et on est coincé entre ça. Alors, moi, ce que je pense personnellement, c'est que je ne suis pas en anti-croissance du tout. C'est juste que pour moi, il y a une croissance différente. Justement, on a tellement produit, on a tellement de choses et autres qu'on peut créer toute une industrie qui est sur, justement... la valorisation, la réparation de tout ce qui nous arrive, nous, chez nous, mais aussi tout ce que les gens ont chez eux et qu'ils ne veulent plus. Et éviter que ça finisse à la déchetterie, mais à la déchetterie dans des bennes encombrantes.
Mais on peut noter quand même, même au niveau de la société, j'ai l'impression, une sorte de changement culturel où certaines personnes vont même publiquement assumer, par exemple, qu'elles portent des vêtements de seconde main, et ça va même être perçu comme quelque chose d'un peu tendance.
Alors il y a peut-être cette tendance-là. Après, moi, l'autre tendance que je vois, malheureusement, des fois, c'est un petit peu le... On parle beaucoup des importations chinoises, notamment, on ne va pas citer forcément de plateformes, tout le monde les aura reconnues, mais où on consomme malheureusement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un... Effectivement, il y a peut-être un écart qui se creuse entre des personnes qui petit à petit prennent conscience qu'effectivement que consommer c'est pas neutre, que ça a des impacts environnementaux et autres, et puis peut-être d'autres qui ne l'ont pas encore tout à fait pris. Et puis aussi, il faut imaginer qu'on a peut-être des gens aussi qui ont quand même des revenus qui sont peu élevés et que ils ont ce sentiment de peut-être exister ou de pouvoir se faire plaisir à des prix aussi qui sont des fois très bas. Donc c'est très compliqué de pointer du doigt, d'être moralisateur là-dessus.
La tentation du neuf, oui, dont parlait quelqu'un dans le micro-trottoir. Et pour ouvrir un petit peu donc, la question, on peut d'ailleurs se poser cette question sur le fait donc, d'acheter d'occasion. C'est bien d'acheter d'occasion, mais finalement, est-ce qu'on ne doit pas aussi plus largement remettre en question notre consommation et se dire que, est-ce que le but final, ce ne serait pas aussi de consommer moins?
Disons qu'il y a... Moi, j'ai 4 enfants, donc c'est compliqué pour moi de... Ils ont forcément des envies. Ils ont forcément envie d'avoir, des fois, ils voient quelque chose dans un rayon qui est neuf. Ils ont tout... Donc, je ne me vois pas leur dire, alors, tu sais, mode de production, les matières... Enfin, mais petit à petit, c'est de sensibiliser à ça sur, justement, que, comme je l'ai dit, consommer, c'est pas forcément un acte neutre. Et consommer des vêtements, consommer des objets, il faut regarder dans quelles conditions ils sont produits, d'où ils viennent. Et puis ils sont faits à partir de matières premières. Donc ces matières premières sont aussi issues de pays ou de modes de production. Et en fait, tout ça, moi je sais que j'ai un peu changé. Alors j'aimerais bien être donneur de leçons. Enfin, je sais pas si ce serait une bonne chose, mais je ne le suis pas. C'est-à-dire que même moi, dans ma consommation, il y a des choses qui ne vont pas. Et j'en suis conscient. J'essaye de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Mais moi, je suis plus arrivé des fois sur un changement de consommation, tant sur l'environnement, mais que sur aussi un peu la politique au niveau international, de voir un peu dans quelles conditions les objets sont produits, et de dire, en fait, en consommant comme ça, je suis un peu complice de choses qui me déplaisent. Et puis de voir aussi d'où viennent les matières premières, que ça engendre aussi. C'est-à-dire que ça vient quand même souvent de pays où les droits élémentaires ne sont pas respectés. Et puis, quand on voit notamment ce qui se passe en Afrique, où on a, je crois, plus d'une 50aine de conflits, plus ou moins larvés, ou parfois vraiment au grand jour, quand on creuse un tout petit peu, c'est souvent pour s'accaparer ou contrôler des matières premières. Donc ça, c'est quelque chose aussi où il faut en avoir conscience également.
Oui, prendre conscience de l'impact de notre consommation, c'est sans doute la première étape. Bruno, on en parlait un petit peu, donc tu es coprésidente de la recyclerie Le Bruit du Placard qui est à Saint-Laurent. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu plus le lieu, comment fonctionne cette recyclerie?
Alors la recyclerie, elle a une dizaine d'années, elle est abritée dans des locaux qui se situent en face du stade de foot à Saint-Laurent. Donc c'est des locaux qui sont prêtés par la mairie de Saint-Laurent, on ne paye pas de loyer, c'est vraiment prêté par la mairie. Les locaux alors accueillent à la fois, on a 2 salariés à temps partiel, et puis une équipe de bénévoles qui vont essayer de faire vivre cette recyclerie, c'est-à-dire la faire vivre, ça va être de ranger, ça va être de trier, ça va être de réparer si on le peut, ça peut être aussi des fois, soit on a vraiment des choses qui partent pas, soit on a vraiment des choses qui sont trop abîmées, soit on manque de place, et donc des fois, on va aller à la déchetterie pour jeter des choses dont malheureusement on n'a pas pu trouver ni preneur ni réparateur. Donc ça c'est le fonctionnement de la recyclerie. On est ouvert le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi de 14h à 17h et on est ouvert le samedi matin de 10h à 12h30. Et c'est ces heures d'ouverture, la boutique est ouverte mais on peut aussi déposer. Donc on peut déposer les vêtements, les objets, les jouets, les meubles, en sachant que pour les meubles par exemple, on peut des fois refuser, tout simplement par manque de place. Parce qu'effectivement, des fois, on va recevoir un petit meuble, donc celui-là, on va trouver une place, puis des fois, ça va être le gros canapé, et le gros canapé, des fois, on n'a pas la place pour le prendre. Donc ça aussi, on le communique aux gens en disant... passer nous voir, et puis des fois, malheureusement, on ne pourra pas récupérer tel ou tel objet.
Est-ce qu'il y a un tri qui est fait quand vous recevez les objets ?
Alors, on a une salle dédiée justement au tri, c'est-à-dire une petite salle où justement on va classer par thématique les livres, les bibelots, choses comme ça. On va déjà, parfois déjà jeter des choses qui sont vraiment trop dégradées, dangereuses, abîmées. Et puis après, on va aller, donc les vêtements, il y a tout un espace réservé aux vêtements. On a un espace qui est réservé à tout ce qui est la vaisselle, par exemple, aux jouets et ainsi de suite. Et puis après, on a une salle qui concerne plutôt tout ce qui est meubles, aménagement intérieur. Et là, ça est, on va essayer de faire du Tetris, hein, c'est constamment du Tetris, pour essayer de faire rentrer le maximum de choses tout en respectant les consignes de sécurité évidentes.
Et au-delà de la place, est-ce que sur donc la qualité en fait, des produits qui sont amenés, il y a un tri aussi qui est effectué ?
Alors il y a un tri qui est fait, après on constate quelque chose que tout le monde constate, c'est-à-dire que des fois on va nous apporter un aspirateur qui a 30 ans et qui fonctionne très bien, et puis on va se retrouver des fois avec des aspirateurs pratiquement neufs et puis qui ne fonctionnent pas. Enfin, il y a ça aussi, c'est que dans la qualité des choses apportées, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, donc on en reçoit vraiment énormément. Et c'est vrai que nous, on les accueille encore aujourd'hui, les vêtements. Il y a d'autres recycleries qui ont fait le choix d'arrêter parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Ils se retrouvaient avec une telle quantité de vêtements à trier que finalement, économiquement, ce n'était pas viable. Et nous, on recevait tous les vêtements, on faisait un tri, on mettait en rayon vraiment ce qui était vraiment, vraiment, vraiment en très bon état. Et puis, dès que ça avait un défaut ou autre, on faisait des sacs pour le relais, par exemple, qui venaient les chercher. Et donc ça, on pouvait se permettre de dire, voilà, on garde vraiment le mieux, et on en avait déjà vraiment énormément, et tout ce qui était un petit peu moins bien ou autre, on pouvait se décharger. Et en fait, c'est plus le cas maintenant, parce que en fait, il y a une telle quantité de vêtements que même des entreprises qui sont spécialisées dans la collecte s'y retrouvent plus forcément économiquement, parce que incinérer une tonne de vêtements, c'est 250 euros. Donc si en face, il n'y a pas forcément les vêtements, on va dire correct à la revente, qui vont permettre au moins d'équilibrer les choses, ben c'est plus possible. Donc là, nous maintenant, on a cette difficulté-là en plus de se dire qu'il faut trier, mais il faut aussi trouver des solutions pour qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on ne garde pas. Et ça nous rajoute encore une charge un peu mentale, on va dire, sur le fonctionnement de la recyclerie.
Et toi, je crois que ça fait plusieurs années que tu es bénévole là-bas. Est-ce que tu as noté une évolution justement dans les dons ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de vêtements, par exemple ?
Alors les vêtements, c'est vraiment quand même une quantité non négligeable de choses qu'on reçoit. Après, il y a... l'idée, c'est de recevoir le maximum de choses possibles parce qu'il n'y a pas forcément de règles. C'est-à-dire qu'un meuble qu'on va juger moche personnellement, ou un livre qu'on va juger vraiment des fois un peu... Bon, ben c'est peut-être le premier qu'on va vendre. Donc quand c'est ça qui arrive, c'est compliqué. Après, il n'y a pas de règles. S'il y avait des règles, on se dirait, bon...
Les goûts et les couleurs.
Non, mais c'est vraiment... Des fois, on voit des trucs en disant, mais pourquoi l'autre bénévole a accepté ça ? Mande un chien. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et bim, c'est la première chose qu'on vend. Donc on dit, déjà, on va laisser excuser. Et puis... Bon, je m'occupe des livres à la recyclerie. Et donc, des fois, j'ai un livre, je me dis, bon, quand même, ce livre... Je me souviens, une fois, c'était une édition sur un élevage de caprins. Enfin, le truc était déjà tellement ciblé que je disais, déjà, ça va intéresser vraiment pas grand monde. En plus, c'était une édition des années 90. Je me dis, le truc, il est ciblé, il n'est pas actuel. C'est le premier que j'ai vendu ce matin-là. Après devoir faire des choix, moi, à titre personnel, les livres, j'essaye d'en donner à la page, j'essaye d'en mettre dans des cabanes à bouquins. Dès qu'il y a un événement organisé par le sous des écoles, j'arrive avec mes caisses de livres où justement les enfants peuvent prendre tous les livres qu'ils veulent, c'est gratuit parce que j'ai pas envie d'en jeter, quoi. Enfin, voilà. Mais on peut pas pousser les murs. Donc, on essaye de mettre en place des systèmes D pour essayer de trouver des solutions pour écouler un petit peu ce qui est des fois un peu en surplus à la recyclerie.
Et tu parlais tout à l'heure du fonctionnement des objets. Est-ce que tous les objets sont testés avant d'être mis en vente ?
Alors, en fait, nous, idéalement, alors on a un monsieur qui vient... alors, on le fait tous un peu. Après, on a un monsieur quand même qui vient un petit peu plus et qui vraiment... Mais bon, il se met sur un coin de table, dans une pièce sombre. C'est pas du tout adapté, quoi. Il n'a pas un espace de 2-3 mètres carrés avec des outils, choses comme ça, vraiment dédié qu'à ça. En sachant que souvent, je pense qu'on ne peut pas faire plus nul que moi en réparation et autres. Et quand on m'apporte un aspirateur, je regarde si le sac n'est pas troué. Enfin, il y a des fois des choses où ça nécessite une soudure, ça nécessite même rien du tout pour qu'ils puissent refonctionner. Mais on a quand même cette habitude de ça fonctionne plus et puis on va pas forcément le réparer ou ce qui est arrivé, nous, les témoignages qu'on avait, parce qu'on reçoit des fois des choses où les gens nous disent voilà, là il manque une petite pièce. Des fois on se dit c'est pas possible, il manque une pièce, mais la pièce va être peut-être aussi chère que l'objet en lui-même. Donc une fois on avait eu une douche, il manquait un petit truc sur un des robinets, et le monsieur a dit moi j'ai préféré racheter quelque chose de neuf parce que c'était pas le même prix, mais que bon, entre avoir un truc peut-être un peu bricolé et puis un truc neuf, il n'y avait pas une grande différence de prix, quoi.
Et alors, je parlais de ton rôle à la recyclerie. Donc, tu es à la fois, je crois, coprésident et bénévole concrètement, donc sur le terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consistent ces deux rôles différents ?
Alors, le premier rôle, coprésident, je ne sais pas dire non. Donc, il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue à un moment donné. Non, mais c'est une blague. Mais c'est pas une grosse responsabilité. C'est avoir tout simplement le droit de signer des chèques quand on a quelques chèques à porter à la banque. Et puis, c'est se faire participer au CA. C'est aussi essayer d'écouter aussi les demandes des salariés, simplement, s'il y a une demande, d'être assez réactif, parce que c'est notre rôle, simplement. Et après, en tant que bénévole, moi, ça doit faire 4-5 ans que j'y suis. Moi, j'essaie d'y être le samedi matin. Donc, j'y suis, je m'occupe des livres. Enfin, il y en a d'autres qui s'occupent des livres, mais moi, j'essaie de m'occuper le samedi matin. Et après, je m'occupe de tout ce qui va être meuble. Donc des fois, ça va être porter des choses, ça va être décharger des voitures, ça va être de charger des voitures, ça va être d'essayer de faire un peu le pitre, mais en faisant le pitre pour essayer de présenter des objets qu'on a, avec l'espoir peut-être que les gens vont être intéressés. Et puis après, il y a une chose toute bête aussi, c'est qu'on passe notre temps à ranger. Quand on passe notre temps à ranger, on déplace des choses. Et donc, on a à chaque fois dit « Ah, c'est nouveau !» Et puis, en fait, on sait que ça fait 6 mois que c'est là, mais juste le fait que ça a été déplacé, il y a quelque chose qui va ressortir, on va trouver quelqu'un qui va être intéressé. Après, des fois, on a un très beau meuble qui va arriver, donc forcément, tout de suite, il va partir. Et puis après, on a des barres de voiture, des chaînes de voiture, des choses qui sont très spécifiques. Et là, il faut que ce soit quand même un minimum rangé pour que la personne intéressée puisse trouver cet objet-là le jour où il en a besoin. Enfin, voilà, c'est tellement éclectique qu'il faut que ça soit quand même un minimum organisé pour que on puisse éventuellement dire vous cherchez ça, si on l'a, c'est à tel endroit.
Et au-delà de la recyclerie, Bruno, tu es un petit peu identifié comme monsieur poubelle sur le territoire, puisque tu t'es beaucoup impliqué sur cette question.
J'ai même interviewé une poubelle, donc là c'est mon équilibre mental qui est remis en question. Non, mais moi je l'ai fait à un moment donné, là je le fais moins parce que je suis impliqué sur d'autres choses. Je suis entrepreneur, ça me prend beaucoup de temps. J'ai aussi 4 enfants. Donc j'ai réarmé la France avant l'appel du président de la République, ça il faut le souligner aussi. Mais oui, non, les poubelles du secteur, il y a plein de choses malheureusement, il y a plein de choses à dire. Et je pense que c'est là-bas. C'est-à-dire que si on veut arriver à quelque chose, si on veut peut-être changer notre manière de consommer, faut au moins avant qu'on soit capable peut-être de changer déjà notre manière de trier, quoi. Après voilà, je pense qu'au sein de notre commune ou de l'intercommunalité, il faut imaginer qu'on est une équipe. On est une équipe, on n'a pas des poubelles individuelles, on a des poubelles collectives. Donc on est une équipe, c'est-à-dire que si certains font moins que d'autres, c'est les autres qui payent. Et donc forcément, moi je côtoie des gens qui des fois vont se mettre dans tout leur état parce que le mouchoir en papier ils l'ont pas mis dans la bonne poubelle, et là on se dit c'est peut-être un peu trop, c'est pas forcément très grave. Et puis à côté de ça, on le voit tous, on va avoir de l'électroménager, des produits chimiques, des tas de choses qui vont être balancées dans nos poubelles. Alors ça, moi ça me gave d'un point de vue environnemental, mais ça me choque parce que je me dis j'étais nul en physique chimie à l'école. Nul. Mais pour moi, deux produits qui ne s'aiment pas, généralement, s'ils sont mélangés, c'est pas foufou. Et on a des gens qui récupèrent ces poubelles, qui font ce travail de collecte. J'ai eu des témoignages de quelque chose où il y avait eu de l'ammoniac qui s'était échappé d'une poubelle, où c'était carrément impossible qu'ils remplissent leur mission parce que... Il y a d'autres exemples où des fois on a des centres de tri qui brûlent et autres parce qu'il y a une batterie au lithium qui s'est enflammée et que ça a mis le feu à l'ensemble des bâtiments. Enfin, c'est Voilà, donc ouais, je suis identifié poubelle. Alors je le fais moins, je me suis peut-être trompé aussi dans les manières des fois d'agir dessus, mais voilà.
Parce qu'on va le rappeler, donc tu avais créé un collectif qui s'appelait les Déchénérés Royan-Vercors,
ouais,
si je me souviens bien.
On avait pris ce mot-là parce que déjà c'était pour montrer à quel point peut-être notre équilibre mental était peut-être à dire, ou c'était tout simplement pour couper l'air sous le pied d'éventuels détracteurs en disant bah, eux-mêmes se qualifient un petit peu de, d'un peu en marge ou un petit peu fou, mais après c'était de voir un peu l'état de ça. Enfin, quand tu travailles dans un peu, enfin, moi je suis un peu là-dedans, c'est un, bon, j'aimerais m'y mettre plus, mais j'ai pas le temps. Mais c'était à la fois conscient de, du fait qu'il y a des impératifs environnementaux, que c'est pas des, des lubies d'écologistes, c'est juste une réalité. Je veux dire, on a des chiffres, des réalités scientifiques. Et quand tu vois à l'échelle d'un territoire qui est le nôtre, donc nous, le territoire, la communauté de communes, c'est 10 000 habitants. Sur le royaume où on va être à 5-6 000 environ. Donc en fait, on arrive, je pense, à voir un peu les choses, parce que quand on est sur des millions d'habitants, ça parle moins, mais là, on est sur un territoire, on va dire, à dimension humaine, et quand tu vois déjà tout ce qui est jeté, tout ce qui est mal trié et autres, ça fait pleurer, parce qu'on imagine déjà à une échelle, je sais pas, je pense Romans, 30 000 habitants, Valence, 80 000, où on se dit, mais mon Dieu, si c'est la même chose, ces quantités sont effroyables. Nous, moi, chaque fois que je vais à la déchetterie, en fait, je vois pas des déchets, je vois des tas de choses qui n'ont pas leur place dans ces bennes, en fait, tout simplement.
Oui, l'idée du collectif, c'était pour toi d'attirer l'attention sur la manière dont on va gérer nos déchets, pas forcément les mettre dans la bonne poubelle, les choses comme ça. Et puis le fait qu'on va considérer comme des déchets, des choses, encore une fois, qui pourraient resservir
à d'autres. Qui pourraient resservir, oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Bruno. Donc, je le rappelle, Bruno Rey, qui est notamment co-président de la recyclerie Le Bruit du Placard, donc à Saint-Laurent-en-Royans, et qui nous aidait à répondre donc, aux idées reçues sur la seconde main et sur le marché de l'occasion. Merci beaucoup, Bruno.
Merci à vous.